Eh mais pourquoi? J'ai rien de mieux à faire.
Bonjour chers amis de la FMR, aujourd'hui nouvelle émission, nouveau sujet. Je vous propose de parler du relais, parce que nous avons pu nous rendre à leurs 50 ans, donc c'était un petit peu la journée qui retraçait toutes les activités du relais et tout ce qu'ils ont pu apporter au milieu des marginaux, des gens dans la précarité ou des gens qui souffraient de problèmes de stupéfiants. Et des fois, c'est souvent des marginaux précaires qui se calment. Et du coup, nous avons ramené pléthore de témoignages et d'historiques sur cette fameuse fondation. Je vous propose donc de débuter cette émission par un petit interview. Bonjour Madame Benketab, je vous remercie déjà de votre invitation. C'est une soirée à ma foi charmante, où j'ai l'occasion de rencontrer beaucoup de monde. Est-ce que vous pouvez peut-être me parler un petit peu, peut-être vous présenter en quelques mots?
Voilà, qu'est-ce que je peux dire de moi? Sarah Benketab, je suis directrice du relais depuis 5 ans et demi maintenant. À la base, j'ai fait des études en soins infirmiers et ensuite en travail social, donc à l'école d'études sociales et pédagogiques, avec un perfectionnement en politique sociale, voilà mes études de base. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Voilà, donc une infirmière assistante sociale, quoi.
Très bien, très bien. Il n'y a pas de mal. Comment s'est passée votre arrivée à la Fondation? Ça date à peu près de quel...
Je suis arrivée en juillet 2016. Donc c'était le départ de Jean-Claude Pittet, qui était là depuis de nombreuses années. Donc ça a été une transition... on va dire pas simple parce que ben voilà, quand on change comme ça de direction, c'est pas toujours évident pour toutes les équipes, donc il a fallu un temps d'adaptation.
Oui, bien sûr, oui. Je m'en doute. Et actuellement, comment vous pourriez définir le relais et ses activités?
Alors, je définirais le relais comme une fondation très dynamique, très à l'écoute des besoins, qui s'adapte à l'évolution des besoins de la société. Là, on est en train de développer des nouveaux partenariats avec un nouveau public également. Donc voilà, le relais est toujours en mouvement.
D'accord, merci. Le relais a une particularité qui est extrêmement intéressante pour les personnes qui sont usagers, usagères de produits stupéfiants, c'est la notion d'éducateur hors mur. Est-ce que vous pouvez expliquer en quelques mots en quoi ça consiste?
Mais l'équipe de relais est arrivée très vite, ils sont arrivés dans les années SIDA, hein, comme j'en parlais tout à l'heure dans le discours, où, les années SIDA, c'était une période qui était violente. Je m'en souviens, j'étais dans les soins à l'époque et je parlais d'exclusion tout à l'heure. Viviane Gratz a parlé aussi d'une époque où il n'y avait pas une acceptation de ce public. C'était très clivé aussi parce qu'il y avait... Il y avait les bons et les moins bons, ceux qui avaient le sida parce que ben, les pauvres diables, ils avaient une transfusion sanguine puis ils l'ont attrapé comme ça. Puis les autres qui étaient un peu, il y avait une sorte de jugement comme ça, de vision où ben, les autres c'était de leur faute finalement. Et c'était vraiment, c'était une ambiance qui était lourde à tout niveau avec vraiment beaucoup d'exclusion. C'est des années qui m'ont marqué parce que j'étais encore étudiante dans les soins et puis je me posais des questions en me disant mais finalement les soignants ils ne sont pas là pour juger, c'est pas leur rôle. Moi ça m'a questionné, ça m'a remis en question sur plein de choses et après en fonction d'autres paramètres également, c'est ce qui fait que je suis partie sur l'école sociale.
D'accord, vous avez parlé de vision, de stigmatisation en fait, mm-hmm. de la personne qui consomme. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une évolution dans ce domaine?
Je pense qu'il y a... Alors ça dépend tout du public. Il y a encore toujours des peurs, de l'incompréhension, il y a encore une partie du public qui ne comprend pas, qui dit mais finalement ils n'ont pas à se bouger le cul pas aller au fond des choses et pas comprendre que finalement c'est un mal-être, c'est une maladie aussi, et puis que c'est des personnes qui ont besoin d'être accompagnées. Et puis en même temps, quand je vois la scène à la Ripone, et je la vois de l'extérieur, je me dis mais c'est une société en elle-même. C'est une société en elle-même et c'est des gens qui font partie d'un groupe, qui a un sentiment d'appartenance à ce groupe-là, mais qui devrait être accepté comme tel par toute la société.
Très bien. Est-ce que cette stigmatisation, vous la ressentez aussi en tant que professionnel qui s'occupe des usagers? Est-ce que vous-même vous souffrez?
Alors, pas dans notre environnement, parce qu'on est dans un milieu où on est dans de la relation d'aide et de l'accompagnement, mais quand on s'adresse à d'autres publics, suivant la personne avec qui on parle, il y a vraiment de la compréhension en disant que ces gens, finalement, ils ont qu'à aller bosser. Quoi.
D'accord, ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter pour le relais dans les deux prochaines années?
Deux prochaines années. C'est pas beaucoup les deux prochaines années.
Ça va vite.
Eh bien que le relais continue à avoir les belles équipes qu'on a, à progresser, à être à l'écoute des besoins. Et puis qu'il y ait moins d'administratifs.
Pour terminer, on vous laisse le choix d'un morceau de musique et d'un titre. Qu'est-ce qui vous vient?
Un morceau de musique.
Tout ce que vous voulez, n'importe quoi.
Bon, moi, je suis fan d'Indochine.
Très bien.
Mais j'ai pas un titre comme ça qui me vient. Bon, allez, on va dire l'aventurier. Parce
l'aventurier.
Que c'est ce que tout le monde connaît finalement. Alors. Tommy termine toujours les concerts avec l'aventurier.
C'est vrai, c'est assez fréquent.
Il peut boire, il peut tout
voilà.
faire.
Voilà, absolument. Alors, on enchaîne avec l'aventurier de Indochine. À toi, Manu.
Plus nombreux
Voilà donc pour ce super morceau de musique. Et maintenant, je vais vous livrer un secret de Polichinelle. En fait, le relais a été la base de la radio éphémère. C'est grâce à eux qu'on a pu se constituer, déjà se rencontrer en tant que personne, mais après mettre en commun notre sens artistique pour que ça puisse donner eh bien, ce que vous écoutez actuellement, donc votre radio éphémère. Au début, le relais était surtout là pour nous épauler. Il y a eu de multiples clashs, de multiples problèmes et même quelques empoignées au sein des réunions de la radio éphémère. Mais le relais nous a toujours aidés au niveau de la motivation, mais au niveau de la modération aussi, dans ce sens où ils étaient présents et puis ils donnaient la parole à tout le monde, y compris les personnes qui n'étaient pas du tout dans le problème. En fait, on pouvait gérer ainsi nos rancœurs et puis mettre en commun surtout nos capacités et nos connaissances afin de monter votre radio qui, je vous le rappelle, va prochainement passer au mode vidéo. Et oui, vous verrez nos têtes en vrai. Maintenant, je vous propose de passer aux interviews de différentes personnes qui constituent le bras armé du relais.
Je suis actuellement avec Sarah et Patricia du relais, anciennement pour Sarah du relais. Vous nous avez aidé en tant qu'association à nous mettre en place, vous nous avez supporté durant nos nombreuses prises de bec, nos prises de décision parfois extrêmes. Est-ce que ce soir vous ressentez une certaine fierté?
Alors, moi je pense que fierté c'est pas le bon mot, parce que je trouve qu'il y a plein de choses exceptionnelles qui sont sorties du relais et aussi du travail social en général toutes ces dernières années. Et puis on ne peut que être heureux et heureuse de ça, mais je maintiens quand même pas mal de tristesse aussi, de tristesse de tout le chemin qu'on a encore à parcourir, du fait que je trouve qu'on n'a pas encore trouvé les moyens de donner une vraie place aux gens, qu'on a du boulot immense à faire à ce niveau-là. Je pense que la fierté implique quelque chose qui est fini, et pour moi on n'en est vraiment pas là, et puis que je trouve qu'on a du boulot pour faire entendre le fait qu'en tant que travailleur et travailleur social, on a besoin de lutter avec les personnes et puis d'être à leur côté. Et puis je pense qu'on a encore vraiment du boulot.
D'accord. Patricia, est-ce que tu partages cette vie?
Ben, c'est vrai que 50 ans, ben, moi ça fait 28 ans, pas 50 ans. Aujourd'hui, c'est l'urgence, puis c'est pour ça que je ne peux pas dire la fierté, la reconnaissance d'avoir pu tisser de la confiance pendant toutes ces rencontres dans la rue avec des personnes qui étaient dans des parcours de consommation, mais de traquer, de vraiment qui criminalisent en tout cas leur consommation, de chercher l'accès aux soins, etc. Donc, c'est plutôt une reconnaissance d'avoir pu tisser ces liens, d'avoir appris mon travail. Mais je me dis, mais en fait, par rapport à la radio, d'avoir accompagné ce collectif de consommateurs qui veut donner la parole à ceux qui n'en ont pas, toujours en 2021, je pense que pour l'instant, comme dit Sarah, on est au début d'un défi pour nous. Enfin, franchement, je me sens pas du tout, je me sens qu'au départ, en fait, il y a eu tout un déjà de survivre, que les personnes que j'ai rencontrées ont survécu, beaucoup sont décédées du sida, des overdoses, enfin, du mépris aussi. Et donc avec tous ces survivants et ces personnalités et tous ces trésors qu'elles partagent, j'espère pouvoir être fière pas dans 50 ans, mais de la suite qu'on va construire ensemble.
D'accord. Bah justement dans cette optique, alors qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter au relais pour les deux prochaines années?
Bon, moi je peux pas parler pour le relais parce que j'y suis plus.
D'accord.
Facile,
par contre, ce que je peux souhaiter de manière générale Et puis le relais en fait partie, parce que s'ils sont un acteur du réseau qui accompagne des personnes en difficulté, des personnes qui consomment, ce que je peux souhaiter de manière générale, c'est qu'on va dans le sens effectivement de cette co-construction, de cette co-élaboration de la suite avec les personnes concernées, et que ça soit ça l'avenir en fait. Et puis ça s'applique pas qu'au relais pour moi, mais ça s'applique à toutes les différentes structures, toutes les différentes instances politiques. C'est bien ça que je souhaite voir ces prochaines années et que j'espère fort qu'il va se mettre en place.
Ouais, moi c'est vraiment faire confiance. Enfin, le défi de faire confiance à toutes les personnes, le public concerné, qui sont nos formateurs et qui nous déforment, qui nous apprennent à oser faire confiance pour déjouer les peurs qui nous hantent, qui hantent les professionnels de tous bords, mais qui hantent aussi les usagers. Et du coup, comment ensemble se faire confiance pour justement prendre des risques et puis à oser d'inventer des espaces de créativité, de confiance. Enfin, je pense que ça, c'est passer à l'action par rapport à ces intentions-là. Dans les espaces qui existent, on a une richesse, une diversité de dispositifs vaudois, mais comment ensemble on peut se mettre véritablement en mouvement pour se faire confiance.
Il a été évoqué lors des présentations ce soir la stigmatisation des personnes usagères. Est-ce que vous-même, en tant que professionnel, vous avez l'impression de souffrir vous aussi de stigmatisation en travaillant avec ces personnes?
C'est des fois une occasion, quelqu'un dit « Ah, ouf, là là, ça doit être difficile de travailler avec ces gens. » En tout cas, on les palpe, la stigmatisation dont sont victimes quand même les personnes que je rencontre.
D'accord, ça ne découle pas forcément sur les professionnels qui s'occupent de personnes toxicodépendantes.
Non, mais moi, je pense que surtout ce que je vis, c'est des témoins d'un mépris et d'une stigmatisation que je trouve lourd et fort, et que pour moi, quand on écoutait les présentations aujourd'hui, on n'en est pas du tout à un autre moment où j'ai l'impression que ça a beaucoup changé. Il y a peut-être d'autres choses qui ont changé, mais cette stigmatisation non. Et que moi, j'ai cette place de témoin, je ne le vis pas du tout. En fait, puis d'ailleurs, j'ai énormément de respect pour les personnes qui le vivent, parce que je peux voir de mes yeux, avec la proximité que je peux avoir, à quel point ça peut être destructeur et violent, en fait. Mais moi, je ne dirais pas du tout le vivre, par contre, d'être...
Vous avez personnellement lancé pour Patricia plusieurs associations. Il y a la radio éphémère, il y a les mamans de choc, maintenant les Lyon, qui s'appellent les Lyon. Est-ce que cette envie d'accompagner, ça reste intacte? Ou est-ce que ça se dégrade avec le temps?
Ah non, mais fabuleux! Mais ça peut jamais! Ça peut pas se dégrader! Le plus difficile, bien sûr, c'est de pas c'est de renoncer. De tourner avec pour avoir un sentiment d'impuissance qu'on pourrait partager avec les personnes qu'on rencontre face à cette discrimination, face à cette absence de reconnaissance, face à ces préjugés. Non, au contraire, quand on voit c'est ce qu'on peut ensemble par des petites choses, c'est se mettre en route, en mouvement ensemble. Essayer de transformer le regard par des petites actions, de découvrir comment on peut se rencontrer. Moi, c'est pour ça que je me lève tous les matins.
En tout cas, pour moi, la question ne se pose même pas. C'est que le travail social se positionne comme allié à des projets collectifs. C'est non seulement ultra motivant, c'est essentiel. On ne peut pas faire autrement, je trouve. Et puis, si on fait autrement, je pense qu'on... rate des occasions de participer à des transformations sociales importantes.
C'est un très bon mot de la fin. Pas tout à fait. Je vais vous demander de vous mettre d'accord pour nous trouver un morceau, un titre d'une chanson. Parce qu'il faut qu'on mette un titre d'une chanson.
J'ai un oui. Si tu es d'accord, je vais le laisser. Oui, c'est parce que c'est une chanson qui a une des mamans qui m'a présenté à un de mes derniers séjours, et je trouve qu'il est fabuleux, et pour elle c'était une chanson qui voulait qui montrait ce qu'elle trouvait, qu'elle retrouvait quand elle se trouvait dans des groupes de solidarité avec d'autres personnes similaires. Et donc du coup je me permets de proposer sa chanson à elle, parce que pour moi il était hyper parent en fait, parce que ça venait d'elle. Donc ça s'appelle Alone Kumba.
Alors, ne doute pas de toi, aie confiance en toi. Ta vie est un combat, tu te relèveras. Ne baisse jamais les bras, qu'on s'en prenne à toi, ne le permets pas. C'est un combat, tu te relèveras. Ne baisse jamais les bras, ne doute pas de toi, aie confiance en toi. Ne doute pas de toi, aie confiance en toi. La vie est un combat, ne baisse jamais les bras. Qu'on s'en prenne à toi, ne le permets pas. Qu'on s'en prenne à toi, ne le permets pas. La vie est un combat, ne baisse jamais les bras. S'il y a bien une chose que je sais, s'il y a bien une chose que je sais, s'il y a bien une chose que je sais, c'est qu'il ne faut jamais baisser les bras. S'il y a bien une chose que je fais, s'il y a bien une chose que je fais, s'il y a bien une chose que je fais, c'est surtout ne jamais baisser les bras. Il faut batailler, ne pas oublier. Il faut batailler, ne pas oublier. Que la vie est un combat, ne baisse jamais les bras. Quand t'as tout donné, rien à regretter. Quand t'as tout donné, rien à regretter. La vie est un combat, ne baisse jamais les bras. S'il y a bien une chose que je sais, s'il y a bien une chose que je sais, c'est qu'il ne faut jamais baisser les bras. S'il y a bien une chose que je fais, s'il y a bien une chose que je fais, s'il y a bien une chose que je fais, c'est surtout ne jamais baisser les bras.
Voilà donc pour ce morceau de musique, un morceau qui illustre les différentes étapes qu'ont connues le relais. Maintenant, un petit historique.
Mais pourquoi ? J'ai rien de mieux à faire.
Est-ce que tu peux juste te présenter en quelques mots ?
Ok, donc ben moi je suis Lionel Vandel, et puis je travaille dans l'équipe du Relates depuis 98.
D'accord.
Ça fait 23 ans que je travaille donc pour la fondation du Relais, dans le cadre de cette équipe hors mur qui s'appelle le Relates.
D'accord.
Alors historiquement, je ne suis pas un spécialiste de la fondation du Relais, mais historiquement depuis 71, c'était le foyer du Relais qui avait été créé avec le tuteur général à l'époque, et puis je ne sais pas s'il n'y avait pas l'approbation, mais voilà. Et puis ensuite, il y a eu un directeur qui a lancé pas mal de structures qui se sont ouvertes au fur et à mesure que les besoins sociaux apparaissaient. Donc ce fameux directeur, c'était André Ferré. Et après, le foyer est arrivé, si je me souviens bien, l'ASEMO, un service social ambulatoire. Et puis ensuite, d'autres services sont nés, notamment après tout ce qui concernait les problématiques liées au HIV, le relais 9, puis le relais 10 qui ont fusionné. Et ensuite, les ateliers sont arrivés avant pour tout ce qui était occupationnel. Après, tout ce qui était lié à la fracture numérique et puis à la nouvelle économie, ben, c'était le CEFIL par rapport à l'informatique, aux formations informatiques. Et donc, en fait, le relais, c'est toujours la fondation, l'association puis la fondation du relais a toujours développé des structures qui étaient en phase avec les problématiques qui étaient nouvelles. Ensuite, il y a eu Jean-Claude Pittel, directeur, qui a développé aussi toute une partie par rapport aux jeunes adultes en difficulté, les JAD et les mesures d'insertion. Donc, il a beaucoup développé tout l'aspect économique, insertion par l'économie. Et la Fondation du Relais, c'est quand même un gros, gros bateau qui a maintenant 14 structures. Et parmi ces 14 structures, il y en a une qui s'appelle le Relates, qui est née en 91. J'étais pas là à l'époque, mais c'est une chercheuse, un éducateur du foyer Relais qui sont partis, effectivement, rencontrer des personnes qui vivaient hors cadre, enfin, hors institution, hors mur. Et donc, ce mouvement d'aller vers est né à ce moment-là pour une population qui était consommatrice, qui était beaucoup, beaucoup impacté par l'épidémie de HIV. Mmh. À l'époque, il n'y avait pas de distribution de matériel stérile. Mmh. Il n'y avait pas beaucoup de... Enfin, c'était la croix à la bannière, on m'a raconté, hein, j'étais pas là, mais pour trouver des cures de méthadone, c'était compliqué, la substitution. Donc, il y avait tout ce paysage-là qui était complètement différent de ce qu'on connaît actuellement. Par rapport au service Basseuil, il n'y avait rien. Mmh. Donc, voilà. Donc, ça a été les premiers éducateurs de rue qui sont allés rencontrer des personnes là où elle vivait, pour voir avec elle ce qui était possible de mettre en place, quoi. Et ça reste toujours la même chose. On est toujours, l'idée c'est toujours d'être là où d'autres ne sont pas, à des heures où les autres ne sont pas, dans des lieux où les autres ne sont pas, pour rencontrer les personnes et voir avec elles où est-ce qu'on peut intervenir et leur donner un coup de main. Mmh, d'accord. Pas attendre qu'elles viennent à nous, mais aller vers elles. Mmh. Et puis on propose, elles disposent. Mmh. Si la personne n'a pas envie, ne veut pas, ou n'est très bien dans cette situation, ben, on va rien imposer du tout.
D'accord. Donc, si je comprends bien, ça s'adresse à toutes sortes de personnes, oui, mais oui, toujours dans le milieu, disons, soit de la consommation de produits stupéfiants ou, disons, des personnes qui ont des besoins.
Oui, c'est un peu... Il y a eu toute une phase où le relais était quand même très, très orienté sur les personnes qui avaient des soucis de consommation. Et puis on s'aperçoit qu'il y a une évolution qui fait que le public a un petit peu évolué vers un public aux problématiques plus larges ou différentes et qui est plus dans la précarité, on va dire au sens large, quoi.
D'accord.
Donc c'est moins consommation que personnes avec des soucis, des problématiques sociales, quoi, mm-hmm, en manière générale, quoi.
D'accord.
Et donc nous au Relais, par contre, on est resté situé par rapport à cette population de consommateurs. Mmh, okay. On est resté sur ce créneau-là, comme le relais 9, le relais 10 est resté sur la population des personnes malades HIV ou hépatite C, mmh, donc notamment des consommateurs, mais pas seulement.
Mais pas
donc, voilà. Et puis il y a d'autres structures qui ont ouvert, comme Relog, etc., qui s'adressent à des populations même plus larges, pas forcément des consommateurs.
D'accord. Est-ce que tu peux nous parler d'une journée type? Alors, qu'est-ce que c'est qu'une journée type pour un éducateur hors mur?
Ah ben, par exemple, il n'y en a pas de journée type. Alors, si je regarde ce matin, ben, par exemple, j'ai commencé ce matin à 8h30 parce qu'on m'avait prévenu que déjà des gens que je connais dans la région de l'Ouest lausannois, enfin de l'Ouest vaudois, pardon, m'avaient indiqué qu'il y avait des personnes qui dormaient dans une salle d'attente, là, dans une gare. Et puis ensuite, on a eu aussi une personne de la police qui relayait les inquiétudes des CFF par rapport à une de ces personnes qui dormait toujours dans cette gare, quoi, dans cette salle d'attente. Donc ce matin, je suis allé la rencontrer pour voir un petit peu ce qui se passait, puis où est-ce que je pouvais lui être utile ou pas.
Mmh, d'accord.
Et puis donc, voilà, on a discuté, on est allé chercher un café à emporter, et puis c'était correct, sympa. On a pas mal discuté là autour. Comme j'étais dans la région, j'en ai profité hier soir pour proposer une autre personne de la rencontrer, ce que j'ai fait aussi dans la même région ce matin. Et voilà, et donc ça, cette matinée, j'ai fait ça. Je devais rentrer à midi, à 11h30 midi sur Lausanne pour rencontrer un autre couple avec qui on avait rendez-vous au passage. Ils m'ont prévenu entre-temps qu'ils ne pouvaient pas être là. Donc voilà, ça fait partie aussi des aléas, hein, entre les rendez-vous qui se font pas. Donc j'en ai profité pour m'arrêter à la fondation à Morges, en revenant de l'ouest vaudois pour faire différentes tâches que j'avais à faire, notamment par rapport aux actions collectives qu'on a été à conduire, qui se passent en l'occurrence tous les jeudis après-midi, avec un groupe de femmes. Donc j'ai fait ça là, entre midi, j'ai deux, trois questions logistiques aussi. Refaire des clés, aller chercher des billets de train pour les gens qui viennent au groupe, etc. Et puis ensuite, j'avais rendez-vous avec toi. Donc voilà comment c'est passé. D'après, j'ai encore un autre rendez-vous après notre rendez-vous ici. Donc voilà, on n'a pas de journée type, mais souvent, elle s'organise autour de rendez-vous qui sont pris, qui sont honorés ou pas. Mmh. Et puis, avec tout ce qui peut concerner des questions un petit peu logistiques ou d'organisation autour.
Mmh. Ça doit être enrichissant quand même.
Ah ben, c'est sans doute une des raisons qui fait que je suis là depuis 23 ans. On est toujours dans des rencontres avec des profils, des parcours et des chemins qu'on envisage qui sont différents. Il n'y a pas de réponse stéréotypée par rapport à ce qu'on propose. Jamais.
D'accord.
Donc pour le coup, c'est hyper enrichissant parce que quand on rencontre la personne, on ne sait pas ce qu'on va lui proposer. Mmh. On ne sait d'ailleurs même pas ce sur quoi on va intervenir. Est-ce que c'est la consommation, trouver des soins? Est-ce que c'est plutôt l'occupation? Est-ce que c'est plutôt des soucis avec la famille? On n'en sait rien, quoi. Donc c'est aussi pour ça que c'est hyper enrichissant. On a la chance aussi d'avoir une fondation qui nous fait confiance et qui nous laisse des marges de manœuvre par rapport à ce qu'on peut mettre en place. Donc notamment toutes des actions collectives qu'on a pu mettre en place ou créer, hein, comme la radio éphémère, par exemple.
D'accord, très bien. Eh bien, merci beaucoup, Lionel.
À ton service.
Eh bien, voilà, donc, pour cette émission qui concernait les 50 ans du relais, donc une fondation qui nous a beaucoup aidés au début, et puis qui a des projets d'avenir qui sont, ma foi, super intéressants. Après, on verra avec le temps ce que ça va donner. Mais pour notre part, on soutient à fond et on espère qu'ils ont apprécié notre émission les concernant.
Mais pourquoi? J'ai rien de mieux à faire.